On l'a exprimé par le chant, vous l'avez entendu, hein, dans nos prières, on a vu beaucoup de richesses que nous avons en Dieu. Il nous a laissé sa parole aussi pour nous encourager. Et ce matin, on ouvre à nouveau le livre des rois. On est au chapitre 9 pour être précis. On poursuit notre voyage avec le roi Salomon. Et on va voir ce matin un royaume justement éblouissant. Alors je vais faire un petit retour sur l'itinéraire qui nous a occupé ces dernières semaines. Vous l'avez remarqué, dans les derniers dimanches, le royaume, le règne de Salomon est quelque part extraordinaire. Même l'agencement des textes, même la manière dont les auteurs nous ont relaté ces événements, on voit le soin de Dieu dans sa parole pour nous inviter à méditer ce passage. Je ne l'ai pas encore fait, mais ce matin, je voudrais le faire. Simplement, ça vous permettra de voir où on en est. On va avoir un petit plan sur les 11 chapitres qui parlent du cycle du roi Salomon. Hein. Donc, c'est un royaume vraiment éblouissant. Ce matin, on va voir les chapitres 9 et 10. Donc, on a vu dans les premiers chapitres, chapitre 1, Salomon, successeur de David, monte sur le trône. Dans le trouble et la confusion, d'ailleurs. C'était pas si clair que ça. Mais désigné par Dieu. Ensuite, chapitres 3 et 4, on a vu déjà la sagesse, la richesse de Salomon, du peuple. Le peuple vit en paix, heureux d'ailleurs sous la conduite d'un roi, d'un tel roi, tel que Salomon. Chapitres 5 à 8, on avait vu la construction, ce récit extraordinaire de la construction du temple, de la maison pour Dieu, une merveille. Dieu voulant habiter parmi les siens. On avait vu aussi l'inauguration, la prière de dédicace de Salomon envers Dieu par rapport à ce lieu où Dieu voulait manifester sa présence. Aujourd'hui, chapitres 9 et 10, comme une sorte de conclusion, on parle de nouveau de la richesse et de la sagesse de Salomon, du règne. Et la semaine prochaine, vous verrez, c'est un peu gris, mais Salomon perd le trône dans le trouble et le conflit. Vous voyez un peu cette symétrie, cette structure en miroir fascinante. Les chapitres 3 et 4 et 4 et 10 forment une sorte de paire où on nous montre la beauté de ce royaume, la beauté de ce règne. Mais c'est plus finement. Chapitre 3, on avait parlé et 4, où Dieu parle à Salomon. Il y a une prière et Dieu exauce sa prière. On avait vu au chapitre 3, verset 12, où Dieu dit à Salomon, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a eu aucun avant toi et qu'on ne verra jamais personne comme toi. Chapitre 9, il y a aussi l'intervention de Dieu, on va le voir aussi tout à l'heure, où Dieu parle à Salomon et répond aussi à sa prière. J'exauce la prière, j'exauce la supplication que tu m'as adressée et je consacre ce temple, cette maison que tu as construite pour établir mon nom. Et dans le chapitre 4, en symétrie, on nous dit que le peuple est heureux. Juda, Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Chapitre 10, qu'on verra aussi tout à l'heure, il nous est dit que heureux sont les hommes, heureux sont ceux qui vivent dans ce royaume. Vous voyez cette symétrie extraordinaire. Chapitre 4, on voit aussi qu'il y a une renommée de Salomon, une renommée de ce royaume. Toutes les nations venaient écouter la sagesse de Salomon. On voit ça dans 1 Roi 4, 34. Chapitre 10, il nous est aussi dit que tout le monde cherchait à voir Salomon pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Ainsi, au début et à la fin de l'histoire, dans ces 11 chapitres qui nous parlent de ce cycle de Salomon, Dieu exauce ses prières. Le peuple vit à son apogée. La gloire rayonne. C'est l'âge d'or d'Israël. Je l'évoquais, les 11 premiers chapitres de Rois, c'est ceux où ils sont les plus magnifiques. Mais est-ce que cela va rester ainsi? Est-ce une bonne ou mauvaise nouvelle, tout ce qu'on est en train de lire dans ces chapitres? Et pour ceux qui ont pris soin de lire les chapitres à la maison 9 et 10, est-ce que vous avez pensé, tout va bien? Waouh! Où vous êtes dit, il y a des choses qui me dérangent un peu. Je sais pas vous. Personnellement, quand j'ai commencé, j'ai dit, waouh, j'ai été ébloui. Je me suis dit, waouh, tout ce que le texte nous dit, c'est un peu comme l'image, la construction du temple. Dieu a tout donné à Salomon. Et puis, en creusant, en travaillant, en regardant, il y a un certain malaise qui s'est installé. Tous ces si que Dieu donne. Et en fait, on connaît aussi la suite. On n'est pas déboussolé, on sait ce qui va se passer dans les chapitres suivants. Et j'aimerais qu'on voit ça ce matin. On va voir un royaume mais vraiment éblouissant. Avec cette question, est-ce qu'il va durer? On va voir en trois mouvements. Et le meilleur moyen, c'est de plonger notre texte, nos yeux dans ce texte, dans la parole de Dieu, et de voir tout ce que Dieu fait pendant cette période extraordinaire et qu'il y a à nous dire à nous aujourd'hui. Alors je vous rassure, on ne va pas le lire en entier, on va regarder des extraits à l'avancement, et j'espère ne pas vous perdre en route. Alors premier élément, on voit que tout brille. Vous prenez le chapitre 9 et 10, tout brille, tout est parfait. Et ce que Dieu, et le texte, pardon, nous montre en premier, c'est que Dieu confirme son alliance. Dieu confirme qu'il est présent. Dieu confirme qu'il est engagé dans cette situation-là. Et je vous propose de lire cet premier extrait, le chapitre 9, versets 1 à 5. Lorsque Salomon eut fini de construire la maison de l'Éternel, le palais royal et tout ce qu'il avait désiré faire, l'Éternel lui apparut une deuxième fois. Comme il lui était apparu à Gabaon, l'Éternel lui dit « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Quant à toi, si tu marches devant moi comme l'a fait ton père David, avec un cœur intègre et avec droiture, en accomplissant tout ce que je t'ai commandé, si tu respectes mes prescriptions et mes règles, j'affermirai pour toujours ton autorité royale en Israël, comme je l'ai déclaré à ton père David lorsque j'ai dit « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Jusqu'ici la parole de Dieu. On voit que Dieu a exaucé la prière de Salomon. Et vous rappelez la prière de dédicace, Salomon avait conscience du décalage entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Alors il demande que le peuple prie, quand le peuple prie dans le temple, que Dieu puisse l'entendre. Et même, on voit que Salomon, il se dit, même si le cœur il s'est éloigné, même s'il y a eu de la chute, même s'il y a des trucs, Seigneur, veuille répondre. Dieu entend dans les cieux, répond favorablement. Et Dieu, au verset 3, nous dit, j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. Dieu confirme son alliance avec Salomon. Dieu valide la construction, on l'entend dans le texte. C'est cette maison que Salomon m'a faite. J'ai ce désir d'habiter parmi vous, d'être présent, d'habiter parmi les siens. Et vous l'avez entendu, on a un peu ce refrain qu'on a découvert tout au long du livre de 1 Roi, conformément à ce que j'avais promis à David. Dieu, il est en train de dire, comme je l'ai prévu, comme je l'ai dit, je me suis engagé envers David, les choses s'accomplissent. Les promesses faites au roi David. Dieu manifeste sa présence, sa bénédiction. Et je crois que si on avait vécu sous Salomon à ce moment-là, on se serait dit oui. On aurait probablement crié, Dieu nous a conduits à destination. Waouh ! On aurait regardé en arrière à travers tous les siècles. Toutes ces promesses que Dieu avait faites à Abraham, je ferai de vous un peuple, une nation, vous aurez un pays. Ok, cool. À Moïse, ils ont traversé le désert, le peuple. Je vous donnerai un pays avec Josué, avec David. Ils ont regardé en arrière et maintenant, on y est. On a un roi, on a un pays, on a une stabilité, on a une paix, on a une prospérité. Dieu a répondu à tout ce qu'il avait dit. Il a promis, il a tenu son alliance. Et on aurait eu raison de dire « Waouh, Dieu te l'a tout fait !» C'est le premier élément. Deuxième élément qui confirme cette réussite, Salomon multiplie ses constructions. Si vous aviez lu le chapitre 9 en entier, vous aurez vu un mot-clé qui va régulièrement revenir, c'est le mot « construire ». Il y a une dizaine de fois où on dit « Salomon construisit ». Dès le verset 1, vous l'avez entendu, hein, Salomon eut fini de construire la maison et le palais royal, etc. Salomon a conduit de nombreux travaux, de projets de construction. Je lis quelques extraits, versets 10 et 11. Au bout de 20 ans, Salomon avait construit les deux maisons, la maison de l'Éternel et le palais royal. On l'a déjà entendu, la maison de Dieu et son palais. Et plus loin, le verset 11, il dit, Hiram, le roi de Tyr, lui avait fourni autant de bois, de cèdre et de cyprès, ainsi que d'or qu'il l'avait voulu. Le roi Salomon lui donna 20 villes situées en Galilée. On voit même que David avait construit une alliance politique avec le voisin d'à côté, le roi de Tyr. Il y avait une stabilité avec ses voisins. Verset 10, 17, on apprend que, toujours du chapitre 9, Salomon reconstruisit alors Gézer, Beth-Eron, Labas, Baalad et Tamor dans la région désertique du pays. Il construisit aussi toutes les villes qui lui servaient d'entrepôt, les villes destinées à accueillir les chars, celles réservées à la cavalerie, ainsi que tout ce qui lui plut de construire à Jérusalem, au Liban et sur tout le territoire dont il était le souverain. Là, on voit qu'il construit plein de choses. Il semble même des villes fortifiées, la muraille de Jérusalem, etc. Il construit plein de choses. Construction. On le sait aussi, on l'a déjà entendu, Salomon construit et développe tout ce qui est en lien avec le culte de l'Éternel. Chapitre 9, verset 25, Salomon offrit trois fois par année des holocaustes et des sacrifices de communion sur l'autel qu'il avait construit en l'honneur de l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui se trouvait devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut terminé. On voit même que dans l'idée de la construction, il y a même l'idée du culte rendu à Dieu. Et enfin, la fin de notre chapitre 9 révèle que Salomon développe même le commerce. Versets 26 et 28, le roi Salomon construisit des bateaux sur les bords de la mer des roseaux dans le pays d'Édom. Hiram envoya sur ses bateaux, aux côtés des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des marins expérimentés. Ils allèrent à Ophir et ils en rapportèrent près de 13 tonnes d'or qu'ils remirent au roi Salomon. Salomon construit une flotte commerciale, ouvre des voies maritimes. Ça veut dire qu'il y a de la stabilité dans la région. En ce moment, dans le même coin, il y a un conflit. Et le conflit n'est pas bon pour le commerce. Il y a une instabilité. Résultat, un chapitre qui nous présente les nombreuses constructions de David, de Salomon, pardon, tout ce qui touche au rayonnement d'un pays et d'un roi, la politique, la défense, la religion, le commerce, l'économie, le faste de ce pays. Trois éléments, et non des moindres, qui montrent que tout brille, c'est la sagesse de Salomon qui éblouit les nations, et ça on voit notamment dans le verset 10. La renommée de Salomon. Il est l'homme sage à écouter du moment. C'est le gars qui dirige la start-up du moment, qui fait la levée de fonds incroyable, qui enchaîne les plateaux télé, les conférences, et tout le monde veut le rencontrer. C'est Salomon. Le monde entier voulait voir comment Israël avait réussi. Chapitre 10 nous parle de cette visite qui est connue souvent, de cette reine de Séba. Figure importante, je le disais en intro, de culte, le compositeur Handel en a même fait un opéra. La reine n'est pas du genre à voyager léger, et je vous propose de lire ce que dit la parole justement sur ce voyage. Donc les 13 premiers versets du chapitre 10, donc 1 roi, chapitre 10, versets 1 à 13. La reine de Saba apprit quelle était la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions, les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons, ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé et dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'en avait pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Elle donna au roi plus de 3,5 tonnes d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'en vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les bateaux de Hiram, qui rapportèrent de l'or d'Ophir, ramenèrent une aussi grande quantité de bois de santal et des bières précieuses. Avec ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour le palais royal, ainsi que des harpes, des luths pour les musiciens. Il ne vient plus de ce bois de santal et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda. Il lui fit en outre des cadeaux dignes d'un roi tel que lui. Puis elle repartit et rentra dans son pays avec ses serviteurs. C'est une visite d'État, là. La reine de Saba vient voir Salomon parce qu'elle semblait dire, on entendait la rumeur que Salomon était un grand roi. Mais elle n'était pas tellement convaincue. Elle n'était pas prête à croire naïvement à ce qu'on lui raconte. C'est un peu la démarche de beaucoup. On a besoin de voir pour croire. Il faut vérifier par soi-même. Elle a entendu dire que le roi est riche. Elle décide quoi donc de vérifier. Et plus précisément, le texte nous dit même qu'elle le met à l'épreuve, avec des questions difficiles. J'imagine très bien le QCM là, où t'as pas le droit à l'erreur, toutes les questions. J'ai un tas de questions à te poser, et ensuite je déciderai si c'est vraiment vrai ce qu'on a dit à ton sujet. Résultat, on l'a vu, Salomon réussit parfaitement l'examen. Verset 3, elle constate, il n'y a aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout. C'est extraordinaire. Salomon a répondu à toutes ses interrogations. J'aurais bien aimé savoir. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon. Le palais, les plats, le lieu, les serviteurs. Elle l'observa. Extraordinaire. Il y a trois expressions, vous l'avez relevé dans ce texte, qui me font sourire. C'est probablement la première fois où il y a ces expressions un peu de la vie courante. Ça m'a coupé le souffle. Elle n'avait plus d'air. Deuxièmement, on ne m'avait dit que la moitié de l'histoire. C'était incomplet le tableau qu'on m'a dressé. Mais là, je constate que vous faites, oh là, ça dépasse de loin mon imagination. Et troisièmement, je l'ai vu de mes propres yeux. Ma prière est, est-ce qu'on voit les richesses de Dieu de nos propres yeux? Waouh! Tout cet or, je n'en savais rien. C'est à couper le souffle, j'en découvre. On est bien à l'apogée de l'histoire du peuple de Dieu. Et le monde entier s'y intéresse. Je me suis dit, on ne peut pas dire autant de l'Église, ni même de notre pays. Notre culte aujourd'hui, il est simple, Et il a aucune importance pour la plupart des gens. Mais à l'époque, le royaume, le culte à Dieu, la prestance de ce royaume, ça ne se laissait pas. Il n'y avait pas d'autre équivalent. Le royaume de Salomon jouissait d'une telle renommée que des gens du monde entier, ce fut l'apogée. Et mon verset préféré dans cette partie-là, c'est le verset 9, parce que ça montre quelque part, qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine ? Béni soit Dieu, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. Donc elle reconnaît bien que c'est Dieu qui a la manœuvre. Et c'est parce que Dieu aime éternellement Israël qui t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Il est simplement magnifique ce verset. Il nous montre que Salomon n'est pas simplement habile et qu'il a un intérêt personnel, que sa richesse sert à lui. Mais là, la reine réalise qu'en fait, il y a un Dieu qui a à cœur le peuple, qui a à cœur les gens autour de lui. Ce texte nous dit que la bénédiction de la prospérité, de sa sagesse se répand sur le royaume. Votre Dieu aime vraiment votre peuple. Le Dieu que tu es en train d'adorer là dans le temple, c'est un Dieu qui vous aime vraiment parce que vu tout ce que vous avez. On dit parfois qu'on a le gouvernement qu'on mérite. Ce sera le cas plus tard dans le livre des rois. Il y aura des rois terribles, et je crois que le peuple l'aura bien cherché. Et là, la reine, elle dit, vous êtes bien chanceux d'avoir un tel Dieu qui vous fait autant de bien. Vous êtes heureux. Quelle grâce! Ça doit nous interroger, Je laisse la parenthèse ouverte. Et c'est pas fini, parce que la lecture de ce chapitre 10 nous montre encore cette abondance, ce moment tellement extraordinaire. Alors, on le voit dans les échanges de cadeaux, mais à la fin du chapitre 10, on voit aussi que les richesses débordent. Il y a des richesses incroyables. Le temps nous manque ce matin pour tout voir, mais il y a beaucoup la répétition d'or, d'or, d'or. Regardez simplement le verset 4. Le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était de près de 20 tonnes. Wow! En plus de ce qu'il retirait des négociants et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, son or, etc., etc. 20 tonnes d'or par an. Wow. Bouclier. Il fait un trône en or. Verset 22. Tous les 3 ans, les bateaux, donc le commerce, longs courriers arrivaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Bon, ça devait être des biens précieux à posséder et à montrer sa richesse, mais le roi Salomon, verset 23, dépassa tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Oh là là! De l'or, de l'or, de l'or et de l'or. Verset 24, tout le monde venait voir. Et à la fin de notre chapitre, verset 10, on parle même d'une armée puissante de chars et de cavaliers innombrables. Mes amis, il y a une prospérité sans mesure dans le pays. C'est vraiment un royaume éblouissant. Tout brille. Et c'est la réussite. Le temple est achevé. Il y a la renommée et la sagesse de Salomon qui n'est plus à faire. On en est émerveillé. Il y a une prospérité qui est présente. Béni soit Dieu qui vous a fait une telle grâce. Et je crois qu'on peut savourer et on doit savourer ces chapitres. C'est les moments les plus joyeux de la Bible presque. En fait, on doit voir, ouais, tout brille, waouh! C'est pour ça que le début du culte, je vous disais, quels sont tous les trésors qu'on a en Dieu? Waouh! Regardons-les! Je le disais que néanmoins, tout brille, mais il y a un certain malaise quand même, par moment, quand on prend le soin d'étudier. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va durer? On le sait, il ne va pas durer. Il y a un fil conducteur qui se retrouve de temps en temps qui dit que tout n'est pas tout à fait normal. Et ça peut nous mettre mal à l'aise. C'est un peu comme les séries télé, on connaît tous, hein, on a peut-être des séries qu'on suit. L'épisode, on le sait, quand ça commence sur une belle scène, une famille qui rit à table, un couple qui prépare les vacances, ou des enfants qui jouent dans le jardin, quand on connaît la série, on sait très bien que ça va pas durer. Le drame arrive. Finir aux urgences, où le méchant va d'un coup faire irruption. On s'attend à l'accident, on s'attend à la catastrophe, on s'attend à la mauvaise nouvelle, au drame. Et la question à cette lecture est si tout allait s'effondrer. Un moment où tout semble si merveilleux. Ce fil conducteur qui nous vient. Tout brille, mais tout n'est pas solide. Au cœur de cette réussite éclatante, il y a des fragilités qui apparaissent et je vous propose de les voir. Il y a un fil conducteur qui nous accompagne d'ailleurs depuis le premier chapitre. C'est la question de la fidélité du roi à Dieu. Les bénédictions, elles sont conditionnelles à cette fidélité du roi. Dieu exige la fidélité du roi. Dieu bénit, mais est-il fidèle? La condition est là. Je relis simplement chapitre 2, verset 4, où c'est David qui encourage encore son fils, Salomon qui va prendre le trône, il dit « Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout cœur et de tout leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur. » Donc là, il y a l'idée, la royauté va durer si tu écoutes. Et s'ils ne le font pas, que se passera-t-il? La question est un peu en suspens. Chapitre 3, verset 14, on a lu quand Dieu parle pour la première fois à Salomon, Dieu lui dit, verset 14 du chapitre 3, « Si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Donc là, il y a l'idée de la continuité. Chapitre 6, verset 12 et 13, « Te voilà en train de construire ce temple, si tu suis mes prescriptions. » Si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai cette promesse que j'ai faite à ton père David. J'habiterai au milieu de toi et je n'abandonnerai pas mon peuple. Encore une grande et extraordinaire promesse. Hein ? Si tu ne m'abandonnes pas, si tu restes fidèle, si tu obéis, si tu gardes mes commandements, si tu les mets en pratique. Et cette condition, qui dérange un peu, hein, est omniprésente dans le livre des rois. Et dans le chapitre 9, si... On a un peu le pic de ces conditions. C'est comme si l'auteur insistait encore un peu plus. Si tu le fais ou si tu ne le fais pas, ça va prendre une importance. J'aimerais lire avec vous 1 roi 9, verset 6 et suivant, on ne les a pas lus, je vous propose de le voir. Écoutez comment Dieu parle à Salomon. « Si en revanche, Vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai données. Tiens, ça fait écho, hein. Mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom. Et Israël sera un sujet de proverbe, de raillerie parmi tous les peuples. Si important qu'a été son temple, toute personne qui passera près de lui sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, mais pourquoi l'Éternel a-t-il traité de cette manière ce pays, ce temple? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir tous ces malheurs sur eux. On voit la bénédiction, mais on voit aussi que Dieu avertit que chacune d'elles sera perdue. Vous avez entendu dans ce texte, je vous retrancherai Israël. La fierté du pays, la gloire internationale, la renommée, se transformera en ridicule. Vous deviendrez la risée. Vous avez vu ce qui leur est arrivé? Et vous, cette maison qui fait la fierté, qui a été bâtie, dont on a parlé deux dimanches, sera rejetée, sera détruite. Il ne restera plus qu'un tas de ruines. Prenez garde. Maintenant, ils sont en exil. Tant que vous êtes fidèles, et on se demande, et s'ils ne le sont pas? Je l'avais évoqué les fois précédentes, les lecteurs de ce livre des rois sont un peuple qui est exilé. Ils ont fui leur pays. La plupart de leurs compatriotes ont péri. Le temple était détruit. Et quand ils lisaient ce récit, je suppose, il y avait une nostalgie peut-être amère de tout ce qu'ils avaient perdu. Autrefois la grande nation, autrefois des gens venaient nous voir. Et maintenant, il ne reste plus qu'un tas de ruines. Si seulement vous m'aviez écouté. Si seulement vous aviez été fidèle. Donc ça, c'est une interpellation de Dieu. Dieu exige la fidélité du roi. C'est déjà un petit indice. D'autres indices, plus brièvement. Le roi déçoit son allié. Et on voit ça dans les versets 10 et 14. Hiram, vous rappelez, hein, ce roi voisin de Tyr, fidèle collaborateur dans les nombreux chantiers, il lui a ramené plein de matériel. On le voit aider pour le temple, le palais, même les bateaux. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il donne des pilotes, des marins, etc. Il participe à cette construction, à ces voies commerciales. Et au verset 11 et 12, on nous dit que Salomon lui donne un cadeau de 20 villes. Et quand Hiram voit ces 20 villes que Salomon lui a offert, mais quelle ville m'as-tu donné, mon frère? Ça ne lui plaît pas. Je ne sais pas si mon plus fidèle collaborateur me dit, écoute, le cadeau là, moyen. Je pense que j'essaierai de me rattraper. J'essaierai de faire un geste. Et il n'y a aucune réaction de Salomon. Salomon snob même, on dirait, Hiram. Cette relation, elle est pas aussi lumineuse. Il y a déjà un petit grain dans le rouage. Troisième élément qui montre c'est que tout n'est pas solide, il y a une faiblesse héritée qui persiste. Je vous propose de lire au verset 20 et 21. Il y avait toute une population issue des Amoréens, des Hittites, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens qui avaient survécu et qui ne faisaient pas partie des Israélites. Leurs descendants étaient restés après eux dans le pays, parce que les Israélites n'avaient pas pu les vouer à la destruction. Salomon les enrôla comme esclaves pour la corvée, statut qui leur a été resté jusqu'à aujourd'hui. On peut vite passer sur ce type de phrase, mais cette information prend du sens quand on connaît l'histoire du peuple. Dieu avait demandé, c'est un peu compliqué hein, pour ceux qui peut-être n'ont pas tout ça en tête, mais Dieu avait demandé à Israël qui allait prendre possession de ce territoire de Canaan bien des années avant, qu'ils ne devaient laisser pas de survivants. Alors on se dit, ouais, c'est un peu un génocide. Mais Dieu leur avait dit, par votre épée, vous allez exercer mon jugement. C'était un peuple païen, corrompu. Ils adorent, ils font de telles atrocités, ils sacrifient les enfants, etc. C'est une abomination devant moi. Et par votre intermédiaire, je vais exercer la justice. Dieu exerce parfois la justice par d'autres hommes. Et là, Dieu leur avait demandé ça. Vous allez prendre possession de ce pays, mais vous avez l'obligation quelque part de la dépouiller de ses habitants. Et parce que Dieu leur avait fait part du danger s'ils les laissaient vivre. Ces peuples deviendront, il avait dit, là je cite, hein, une épine dans vos flancs. Leur Dieu sera un piège pour vous. Si vous les laissez vivre et qu'ils vont adorer sur leur colline, ils vont vous égarer, ils vont vous détourner de moi. On le sait dans l'histoire de Josué qui a conquéri ce pays. Josué a failli, et la suite aussi. Ils ont pas pu. Salomon, pareil. En tout cas, il veut rien faire de spécifique. Il les laisse. Voilà, il les laisse. Et il les réquisitionne comme esclaves. Bon, il les enchaîne. Enfin, je sais pas, il les enchaîne peut-être pas, mais en tout cas, il dit, ben, vous allez participer aux constructions. Aux constructions de la maison de Dieu. Des païens, des idolâtres. C'est ironie, hein. C'est un danger. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net. Et enfin, on arrive à la fin de notre chapitre 10, où les éléments commencent, alors en tout cas, moi ça me dérange, de plus en plus à déranger. On voit un roi qui transgresse quelque part la loi de Dieu. Je ne sais pas vous, mais cette prospérité abondante, alors en dehors de ramener des singes et des paons, tout cet or, quand même, ça me dérange. Ça devient un peu indécent. Enfin, je sais pas, si vous allez dans un pays où on rassemble tout l'or de partout, on vous le montre, on vous fait tout, bah, ça me dérange un peu. Et ça vient un peu m'interpeller. Et c'est là où la loi de Dieu nous éclaire un peu. Et je vais citer Deutéronome 17. Je prends un peu plus, voilà, mais je prends l'extrait. Mais lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu, c'est une loi que Dieu donne pour le futur roi. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, que tu diras « Je vais établir à ma tête un roi, comme toutes les nations. » Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Dieu te choisira. Ok, très bien, on y est. Seulement, verset 16, « Qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. » Qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, etc. Fidélité de Dieu, à Dieu, cette loi devrait être méditée par le roi. Voilà ce que Dieu a laissé pour les rois. Prends garde à ne pas avoir trop d'argent et d'or. Pourtant, on a l'or à foison là dans le texte. Pour moi, c'est un peu l'histoire d'un roi qui est trop riche. Quand on relit la description du trône qui se fabrique, c'est impressionnant. Et le texte nous dit même, on n'a rien fait de pareil pour aucun royaume. C'est indécent. Il n'y avait pas de sobriété là. Il y a un roi, un lion, pardon, de chaque côté des accoudoirs. Il y a 6 marches. Chacun, il y a, je sais pas, 12 lions là. C'est plutôt chouette, mais c'est en or. Un peu trop d'or peut-être. Enfin, je vous laisse comme... Et puis, la fin de notre chapitre, on voit qu'il possède de nombreux chevaux. Un peu trop nombreux aussi. Des chevaux qui viennent d'où ? Verset 28, d'Égypte. Et on vient d'entendre dans la loi, ne cherche pas, ne faites pas commerce avec l'Égypte pour amener des chevaux. C'est précisément le pire endroit pour s'en procurer. Tu es en train de te constituer une armée en prenant des chevaux. Alors il faut savoir que voilà, Israël a été esclave et qu'il devait marquer cette rupture, ce passé est derrière maintenant. Il ne devait plus y avoir de lien avec le passé. Au contraire, Salomon en étoffe son royaume. On pourrait se dire, ouais, c'est cool, il est en paix avec l'Égypte. Mais il n'est pas tout à fait en train d'obéir à Dieu. Peut-être qu'il s'était dit, c'est là où on trouve les meilleurs chevaux, je veux assurer ma puissance militaire. Et puis, il y a le dernier verset. Je vous lis juste parce que on y passe comme ça, parce que c'est des détails. Mais pour moi, ça montre toute l'ironie de l'histoire. Ils allèrent à Ophir et ils en rapportèrent. Ah non, c'est pas, c'est 10, chapitre 10, pardon. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte, 150 pièces pour un cheval. Bon, je sais pas si ça vaut beaucoup, mais probablement. Ils en ramenaient de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. En fait, Salomon est un marchand d'armes. Il prend des cavaliers, il fabrique des chars pour les offrir aux voisins. Et des voisins qu'on sait hostiles à Israël pendant longtemps, longtemps, qui ont fait des drames terribles. Il fait commerce de chevaux. Les ennemis de toujours. C'est comme si en France, on se mettait aujourd'hui à vendre des rafales pour la Russie pendant la guerre en Ukraine. Tout le monde applaudirait la prospérité. Ouah, Salomon, c'est bien. Tu fais du commerce. Mais il y a un malaise. Salomon franchit la ligne rouge. On est dans le dernier verset et je crois que le premier verset du chapitre 11 que Steven verra avec vous dimanche prochain, c'est pas tant que ça. Il y a quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Toute cette gloire extérieure dissimule bien des fragilités, des cœurs, des compromis, peut-être un peu d'orgueil. Une fissure est en train d'être présente. Tout est sur le point de s'effondrer. Et là, les lecteurs ne s'y trompent pas. J'imagine ce sentiment de mélancolie, de nostalgie. Vous savez, les choses ne sont plus comme avant. Elles ne sont plus là. Notre splendeur, autrefois la gloire, aujourd'hui la ruine. Et peut-être que le peuple avait une aspiration de retrouver ce faste, de retrouver ce repos, de retrouver tout ce qu'il y avait avec, la joie et tout ça. Ça m'arrive au troisième dernier point, jusqu'à ce qu'un autre roi règne. Tout brille, mais tout n'est pas solide jusqu'à ce qu'un autre roi règne. Autrefois la gloire, maintenant des ruines, tout est perdu. Y a-t-il encore de l'espoir pour le peuple de Dieu? Il y a un sentiment de tragédie. Si seulement on pouvait vivre dans un royaume comme Salomon, mais quelque part quand même différent. En fait, Dieu nous fait entrevoir par ce récit qu'on a besoin d'un roi qui soit différent. On l'avait déjà vu les fois précédentes. Voyez-vous, les grandes richesses qu'on peut posséder, ça vaut rien si on n'arrive pas à les conserver. Qui voudrait être millionnaire aujourd'hui et tout perdre et passer le reste de sa vie en prison? On ne voudrait pas. Si seulement je pouvais vivre la prospérité et pouvoir le garder. Si seulement nous pouvions avoir en tant qu'Église une renommée internationale, inaltérable, où on ne peut rien nous dire, rien nous accuser. Si seulement nous pouvions être grands et que notre grandeur pouvait être inaltérable. Si seulement on pouvait aimer Dieu et ne jamais... Vous faites la suite tout seul. Salomon nous présente un règne grandiose. Les contemporains de Salomon se disaient « On est arrivé !» Mais c'était resté imparfait à bien des endroits, dans bien des angles. Et le chrétien, on le sait, Jésus a inauguré un autre royaume et nous présente un autre roi. Celui du fils de David, le Seigneur Jésus, qui lui a été parfait. On comprend quand on réfléchit à Jésus, c'est pour ça que je vous demandais de lister tout ce qu'on a en Jésus, on voit quelque part que c'est extraordinaire de connaître Jésus. Tous ces bienfaits extraordinaires, ça brille de connaître Jésus, de connaître le Créateur et d'en être en relation avec lui. Mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est solide? Oui, c'est solide parce que celui qui en tient les promesses et son alliance, c'est lui. Jésus, il est incroyablement riche. Salomon a reçu l'or par bateau. Jésus, il est quoi? La Bible nous dit qu'il est le créateur de tout l'univers. Tout l'or, il le possède. Il est héritier de toutes choses. Mais la richesse de Jésus, ce n'est pas simplement l'or. On le dit, c'est la richesse de grâce, de bonté, d'amour, de patience, etc. Sa gloire, il l'a manifestée comment? Il l'a manifestée à la croix. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions être quoi? Enrichis. Et la Bible nous dresse tout un tas d'inventaires de ce qu'on a en tant que chrétien quand on connaît Jésus, quand on vit avec lui, dans la personne de Jésus-Christ, et qui sont donnés et qui sont déversés sur ses enfants, à son peuple, à ses disciples. Je donne quelques exemples, mais... Vous en avez d'autres, on les a exprimés déjà dans la prière. Éphésiens 1, 3, en Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. On l'a lu ce matin. 2 Corinthiens 1, 20, toutes les promesses que Dieu dit à ses enfants trouvent leur oui en Jésus-Christ. Colossiens 1 nous parle qu'on est réconcilié avec Dieu par sa mort. On a une relation possible par ce qu'il a fait. On a une nouvelle vie avec Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Quand on connaît Christ, quand on connaît ce roi, quand il vient nous visiter, on est nouveau. Il balaye tout ce qui faisait la honte de notre vie. Quand on connaît Christ, il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'Esprit Saint. La paix avec Dieu, amour répandu par l'Esprit. En fait, en Jésus, on a tout reçu. On a tout. Ça brille. Notre problème, rappelez-vous de l'histoire du début du culte, on est trop peu conscient de tous ces trésors incomparables qui sont déjà nôtres. On vit souvent comme des mendiants, alors que nous sommes, on le dit des fois, princes, princesses du roi des rois. On le sait aussi que Jésus est incroyablement célèbre. Salomon, la reine Saba, était émerveillée par ce personnage. Ça n'a pas duré. Jésus fait des siècles. Des millions l'adorent dans le monde aujourd'hui et reconnaissent qu'il est roi, un bon roi. Il a un impact sur le monde entier. Aujourd'hui, il y a quantité d'associations qui sont nées à cause de ce que Christ a fait dans la vie. Croix-Rouge, vous pouvez mettre plein de choses, médecins, etc. Tout plein de choses sont nées parce que des chrétiens ont été touchés par Christ. Il est devenu célèbre. On parlait du temple, son corps, l'Église. On est l'Église depuis des siècles, vivante, universelle, qui peut porter du fruit parce qu'il est vivant et il est célèbre pour nous. Le message de la bonne nouvelle, il n'est pas appelé à être gardé juste entre nous. Le message que Dieu nous a laissé, il veut qu'on le partage. Et on le partage depuis des siècles. Il se fait connaître. Et enfin, au dernier jour, tous les genoux fléchiront. Imaginons-nous déjà ce matin une foule de Tokyo ou de Corée, ou d'Afrique, ou des États-Unis, ou n'importe, devant Dieu, qui reconnaissent que Jésus est leur Dieu. Salomon n'aurait pas tenu le choc. Et Jésus, il est quoi? Il est incroyablement sage. Salomon surpassait les rois de sa sagesse, de son vivant. Mais de Jésus, il nous est dit, tous les trésors de sagesse sont cachés en lui. Colossiens 2, 3. Les six que Dieu a demandé à Salomon, Jésus les réussit à fond. Si tu marches avec un cœur intègre, Jésus a marché avec un cœur intègre. Il n'avait pas un cœur partagé. Si tu m'obéis, si tu écoutes à Dieu, bah oui, Jésus, il a une obéissance parfaite, la parole de Dieu nous le dit. Si en revanche vous vous détournez, si vous ne respectez pas les prescriptions, Jésus n'a jamais fait cela. Il a une fidélité absolue. Résultat de tout ça, le royaume de Jésus tient, il est inébranlable. Le royaume de Jésus, il est éblouissant et il va durer. Pourquoi? Parce qu'il ne repose pas sur nous, parce qu'il repose sur Christ. Et Matthieu 12, 42, vous pouvez le noter, c'est un texte qui parle de la reine de Saba et qui parle de Salomon et qui concerne Jésus. Et Jésus est en train de dire, il y a ici, donc ça veut dire, il y a en moi plus que Salomon. Salomon est un roi extraordinaire. Mais il y a plus ici, aujourd'hui, Jésus-Christ. Le royaume de Jésus est invisible, mais il est réel. C'est pas un lieu géographique. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de murailles, il n'y a pas de chars. Tiens, on ne peut pas dire que là, il y a un bateau qui arrive pour le royaume de Jésus. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Certains dans l'histoire, malheureusement, ont cru qu'il fallait par les armes conquérir son royaume. Mais Dieu n'a pas dit ça. Un royaume aujourd'hui invisible, un royaume qui est peut-être dans nos cœurs, dans nos vies, mais qui un jour sera visible, et où aussi les peuples du monde entier s'en émerveilleront. Tout comme la reine de Saba, elle a vu, elle en a eu le souffle coupé, on n'en avait dit que la moitié. Nous aussi, laissons Jésus nous éblouir de ce royaume, de ce qu'il est. En fait, je trouve qu'il est fort ce texte parce qu'il nous amène à se dire, est-ce que moi je me réjouis de tout ce que j'ai en Christ? Et j'en ai vu que une petite partie, parce que le meilleur est encore à venir. Laissons Jésus nous éblouir. Alors si on est chrétien, et je termine là, réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Tu fais partie du plus beau et grand royaume que le monde ait jamais connu. D'un royaume sûr, d'un royaume inébranlable, qui est fondé sur la fidélité du Seigneur Jésus. Je vous rappelle cette question, mais alors pourquoi on hésite tellement? Pourquoi il y a cette confiance tellement fragile? Pourquoi il y a cette assurance vacillante? Pourquoi il y a tant ces doutes? Pourquoi on est tellement en train de chercher les bisbilles? Je revois très bien cette église et ce pasteur en Ukraine, alors que débute le conflit, qui se mobilise à prier et à se dire « Le royaume, il est plus important, c'est à Dieu. Il y a un message à partager. Qu'importe qui est en train de nous passer autour de nous, on veut être témoin du royaume, du roi des rois, de celui qui fait la paix, de celui qui restaure, de celui qui répare, de celui qui donne une espérance, etc. » Alors, qu'est-ce qui pourrait être transformé? La réponse, elle est simple. On devrait voir Jésus comme il est. On devrait goûter comme il est. Sa richesse, sa sagesse, qu'on ait le souffle coupé. Nous en avons besoin. Et j'ai peut-être aussi une question pour vous qui peut-être n'êtes pas chrétien ou vous hésitez, ou peut-être chrétien tiède. J'aimerais nous demander, alors que c'est vrai, le monde autour de nous va pas bien. Et on a le droit de dire, c'est terrible. Et j'aimerais, à la lecture de ces textes, se dire, mais où on met notre confiance? Où on met sa sécurité? Où on met notre joie? Où on met notre émerveillement? Dans nos actions en banque? Dans un gouvernement démocratique? Heureusement, on est en Europe. Dans une carrière, dans des ambitions, dans ton solo de saxophone que tu vas produire la semaine prochaine, dans la joie de ta famille, de tes enfants. Tout ça, on le sait et on doit le redire, c'est fragile. C'est fragile. Ce ne sont des choses pas sûres. C'est des situations qui sont ébranlables, qui peuvent s'effondrer. Moi, j'aime beaucoup les pubs bancaires, et je terminerai là, où il y a cette petite note. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça, c'est tout ce que le monde veut nous offrir. C'est pas ferme. Mais c'est tout le contraire avec Jésus-Christ. Jésus et son royaume, il est éternel, il est inébranlable, il est glorieux. Son attachement à nous, il est parfait. Il n'y a rien qui peut nous l'arracher. Amen.